RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel. Et le journal avec Gaëtan Plenet. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou envoie une délégation au Qatar.
Pour participer aux négociations sur la suite de la trêve à Gaza, la première phase est censée s'achever le 1er mars. Hier, les conditions de libération de 3 nouveaux otages israéliens ont fait à nouveau polémique. Le Hamas, de son côté, accuse l'État hébreu de bloquer les négociations. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est ce qu'ont réclamé hier l'EAC et la SADC au terme de leur sommet conjoint à Dar es Salaam en Tanzanie. On vous résume le communiqué final dans ce journal. On sera aussi en Équateur où les bureaux de vote ouvriront dans quelques heures maintenant pour les élections générales, présidentielles et législatives. Des élections sur fond de forts enjeux, pour ne pas dire d'urgence, en matière de sécurité et d'économie. Une extrême droite européenne conquérante hier à Madrid où elle était réunie, RFI y était aussi. Et puis à la fin de ce journal, on vous emmène à la bibliothèque François Mitterrand à Paris où sont organisés des ateliers sur l'intelligence artificielle alors que le sommet mondial consacré à cette technologie ouvrira demain dans la capitale française.
Soulagement, mais forte indignation aussi. Les sentiments étaient mêlés hier en Israël, alors que 3 nouveaux otages ont été libérés par le Hamas.
Contre 183 prisonniers palestiniens, c'était le 5e échange du genre depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à Gaza le 19 janvier dernier. Elisha Rabi, Or Levi et Ohad Ben Ami ont été libérés, oui, mais avant cela, ils ont été exhibés sur une estrade, apparaissant très faibles, très amaigris aussi. 2 d'entre eux ont été admis dans un hôpital près de Tel Aviv et l'établissement qualifie leur état de santé de mauvais après quasiment 500 jours de captivité. Les images de leur retour font ce matin la une des médias israéliens qui parlent également des négociations avec le Hamas. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous.
En direct de Jérusalem, une délégation de négociateurs israéliens est attendue aujourd'hui à Doha au Qatar.
Oui, d'abord au terme de l'accord avec le Hamas, Israël doit se retirer aujourd'hui du corridor de Netzarim qui sépare en deux la bande de Gaza. Alors le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a effectivement donné son feu vert pour l'envoi d'une délégation au Qatar après cette nouvelle phase de libération d'otages. Mais cette mission a un mandat limité, essentiellement discuter de problèmes techniques. Et avant son départ de Washington, le premier ministre israélien a donné le ton.
Nous avons à nouveau vu les monstres du Hamas. Ils en paieront le prix. Nous les éliminerons et nous ramènerons nos otages. C'est la directive que j'ai donnée et c'est ainsi que les choses vont se passer.
Et ce n'est que demain ou mardi que le cabinet de sécurité israélien doit se réunir pour décider de la poursuite de la négociation. Selon le quotidien d'opposition Haaretz ce matin, les pourparlers dans la capitale qatarienne ne sont en fait qu'une façade. Pour des raisons de politique intérieure, Netanyahou ne veut pas passer à la phase suivante.
Une position très critiquée, Michel, en particulier, on l'imagine, par les proches des otages.
Avec des propos très forts, donc, de la part des familles des otages. Écoutez, Enav Zangoker, la mère de Matan, 24 ans, enlevée au kibbutz Nir Oz le 7 octobre, et dont le sort doit être tranché à Doha.
Aujourd'hui, tout le monde comprend l'enfer qu'ils subissent. Tout le monde est sidéré des images choquantes des otages que nous avons vues ce matin. Et le premier ministre de l'État juif se trouve dans un hôtel de Washington et il tente de torpiller un accord qui pourrait mettre fin à cette Shoah.
Oui, les familles d'otages n'hésitent pas à comparer l'état de leurs proches à celui des rescapés de la Shoah au moment de la libération des camps de la mort. Et elles préviennent que les images seront encore plus insoutenable avec les échanges des prochaines semaines, la libération des otages blessés et la restitution des morts.
Oui, d'ailleurs, le comité international de la Croix-Rouge a lui aussi réagi aux images d'hier, appelant à ce que les prochains échanges se déroulent, je cite, de façon digne et privée. Merci Michel Paul. Alors on le disait, des négociations sur la fin de la première phase de l'accord de cessez-le-feu vont donc s'ouvrir à Doha, mais Benjamin Netanyahou a repoussé celle sur la seconde phase à la semaine prochaine. Une étape importante pourtant, puisque c'est cette phase qui doit négocier un calme durable, un retrait israélien complet de Gaza et la libération de tous les otages. On est en direct à nouveau de Jérusalem avec cette fois vous, Abla Junaidi. Abla, hier un haut responsable du Hamas a imputé à Israël les blocages dans les négociations.
Oui, un membre du bureau politique depuis le Qatar où doit se tenir la prochaine phase de discussion impute à Israël, je cite, un manque d'engagement dans la mise en œuvre de la première phase, une tentative de créer un environnement destiné à faire pression sur les négociateurs palestiniens avant l'entrée dans la deuxième phase. Ce responsable, Bassem Naïm, affirme que sa formation est prête à poursuivre les pourparlers et éviter la reprise de la guerre. Un avis partagé à Ramallah, en Cisjordanie occupée, où 42 des 183 prisonniers palestiniens étaient libérés hier. Rencontré sur place, Kadoura Fares, un responsable du club des prisonniers palestiniens, plaidait contre la solution militaire. Seules les négociations ont permis d'obtenir la libération des prisonniers palestiniens d'un côté et les otages israéliens de l'autre, disait cet ancien responsable du Fatah, formation concurrente du Hamas. Son organisation de défense des droits des détenus palestiniens a accusé l'armée israélienne d'avoir frappé plusieurs membres de familles de prisonniers chez eux la veille de leur libération. Des assauts qui visaient, selon l'armée israélienne, à éviter, je cite, « toute fête ou procession en soutien au terrorisme ».
Abla Junaidi, envoyé spécial de RFI à Jérusalem.
RFI 10h06 à Dar es Salaam en Tanzanie, l'EAC et la SADC sur la même ligne.
Après avoir mené jusqu'à présent des processus de médiation parallèles face au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, mais hier, au terme de leur sommet conjoint à Dar es Salaam et d'une réunion entre leurs chefs d'État, c'est donc d'une même voix que les deux organisations d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe se sont exprimées dans un communiqué. Elles réclament ensemble un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Les détails avec Gaëlle Alex.
Les deux organisations ont établi une liste de décisions à effet immédiat. La cessation des hostilités, la réouverture de toutes les voies de communication, y compris l'aéroport de Goma, le rapatriement des victimes et des blessés, et enfin, un dialogue direct entre Kinshasa et le M23 dans le cadre des processus de paix déjà amorcés. D'ici cinq jours, les chefs d'état-major des pays membres des deux organisations doivent se rencontrer pour définir un plan de sécurisation de Goma. Ce point satisfait la RDC, car selon une source proche de la présidence, cela signifie le retrait du M23 et de ses alliés. L'objectif est la désescalade de la violence et l'amélioration de la situation humanitaire, poursuit cette source. Aucune déclaration, en revanche, sur la responsabilité du Rwanda dans le conflit. Sur X, le ministre des Affaires étrangères rwandais a salué un sommet historique et fructueux qui propose des solutions de court, moyen et long terme pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Dernière décision, la fusion des processus de paix de Luanda et Nairobi. Des médiateurs supplémentaires pourraient être désignés. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
À la mort du père de l'indépendance en Namibie, c'est la présidence qui l'annonce. Sam Nujoma avait 95 ans. Le vieux, comme il était surnommé, avait dirigé le pays jusqu'en 2005. C'est lui qui, 15 ans plus tôt, avait obtenu l'indépendance de la Namibie vis-à-vis de l'Afrique du Sud.
Une dette publique à près de 57% du PIB, un taux d'homicide de 38 pour 100 000 habitants. La carte postale est assez peu reluisante, mais elle décrit bien les défis qu'affronte l'Équateur.
Et qu'affrontera son prochain président. Les élections générales ont lieu ce dimanche dans un pays où les électeurs âgés de 18 à 65 ans ont l'obligation de se rendre aux urnes. Ils doivent donc élire leurs députés ainsi que le nouveau président, nouveau ou pas d'ailleurs, puisque l'actuel chef de l'État, Daniel Noboa, compte bien rester au pouvoir. 15 candidats vont tenter de l'en empêcher, notamment l'opposante de gauche, Luisa Gonzalez. Mais quel que soit le vainqueur, il le sait, il va falloir faire face à des défis complexes et avec peu d'argent. Correspondance à Quito d'Éric Sanson.
Dans son bureau de l'université San Francisco de Quito, l'ancienne ministre de l'économie, Magdalena Barreiro, ne respire pas l'optimisme. Pour elle, les promesses électorales des candidats montrent qu'ils ne connaissent pas la réalité économique de l'Équateur.
C'est une situation de mucha illiquidez.
Le pays manque de liquidités. En plus, la structure du budget est inflexible, avec des dépenses pour la santé, l'éducation et la sécurité qui ne peuvent pratiquement pas être réduites.
Bien que l'activité minière et pétrolière soit encore attractive pour les grandes entreprises qui peuvent se protéger de l'extorsion, les autres secteurs économiques sont en difficulté, notamment le tourisme qui souffre de l'insécurité et du manque d'infrastructures. L'Équateur n'a reçu l'an dernier que 200 millions de dollars d'investissements étrangers contre 11 milliards pour son voisin péruvien, une réalité invisible durant la campagne.
Nous, les Équatoriens, sommes mythophiles. On aime quand on nous ment. Tout candidat offrant d'augmenter la dépense publique et de mettre fin à l'insécurité ment en toute connaissance de cause.
Ce qui, à terme, peut menacer la dollarisation, pourtant plébiscitée par la population. Éric Sanson, Quito, RFI.
Et le deuxième tour de ces élections générales aura lieu le 13 avril prochain. Un nouveau coup d'arrêt judiciaire pour l'administration Trump aux États-Unis. Un juge fédéral suspend jusqu'au 14 février l'accès par toutes les personnes nommées par le pouvoir politique aux données personnelles de millions d'Américains, conservées ces données par le département du Trésor. Il explique que cela implique un risque, je cite, de préjudice irréparable comme la divulgation d'informations sensibles. Le juge ordonne donc à Elon Musk, à la tête de la commission à l'efficacité gouvernementale, dont les membres s'étaient justement vus accorder l'accès à ces informations, il leur demande de détruire immédiatement toutes les copies qui auraient déjà été téléchargées. C'est une victoire pour les procureurs généraux de 19 États américains qui avaient eux-mêmes intenté cette action en justice.
Il n'en demeure pas moins que le retour au pouvoir de Donald Trump inspire l'extrême droite européenne.
Elle était réunie en congrès hier à Madrid, organisé par les Patriotes pour l'Europe, le troisième groupe au Parlement européen. Et Raphaël Delvolvé, beaucoup de leaders européens nationalistes ont surfé sur la vague MAGA.
Ici à Madrid, ne dites pas « Make America Great Again », mais « Make Europe Great Again », ou dans sa version espagnole
« Hacer Europa grande otra vez ».
Santiago Abascal dirige Vox, parti en pleine ascension en Espagne. Donald Trump est évidemment un allié pour lui.
Nous cherchons et nous avons trouvé un frère d'armes dans la bataille pour le bien, pour la vérité et la beauté.
La bataille pour la vérité du Trump dans le texte, lexique également repris par Geert Wilders, dont le parti ouvertement anti-islam est le premier aux Pays-Bas.
Nous sommes les serviteurs de la vérité. Mes amis, nous devons redevenir forts.
Plus galvanisé encore, le Hongrois Viktor Orban, premier ministre de son pays, au discours radical et décomplexé.
Nous avons inscrit dans la Constitution que la mère est une femme et le père est un homme.
Et plus encore, quand il s'agit d'immigration,
l'invasion et le remplacement de la population en Europe n'est pas une théorie complotiste. C'est la stricte réalité.
Dans l'assistance, la Française Marine Le Pen ou l'Italien Matteo Salvini, un échantillon de ces leaders d'extrême droite qui désormais se prennent à rêver de devenir très vite des Trump européens. Raphaël Delvolvé, Madrid, RFI.
Et puis en France, Emmanuel Macron à la télévision ce soir.
Le chef de l'État doit s'exprimer à 20h30 heure de Paris pour parler à nouveau d'intelligence artificielle, comme il l'avait fait il y a quelques jours déjà dans la presse régionale. Et si ce sujet intéresse autant le président, c'est que son pays accueillera à partir de demain un sommet mondial sur l'IA. En présence de nombreux patrons du secteur, ils discuteront à partir de demain, oui, mais avant cela, le ministère français de la Culture organise un week-end culturel de l'intelligence artificielle avec des tables rondes et des ateliers organisés dans la capitale. L'occasion de faire découvrir aux petits comme aux moins petits les différents usages de cette technologie. Reportage à la bibliothèque François Mitterrand, Elisa Robuchon.
Là, je pilote un robot pour qu'il bouge sur un circuit et il doit contourner des obstacles.
Ordinateur en main et accroupi devant le petit robot jaune, Ruben Schirk participe à l'activité aux côtés de sa mère. Objectif, que le robot enregistre ses informations de déplacement pour ensuite avancer seul, sans encombre.
Là, le robot, il va se déplacer en mode automatique. Il va faire tout seul ce qu'il va décider.
Et alors là, mission accomplie, il rentre pas dans les obstacles.
Oui, c'est vrai.
C'est plutôt réussi pour le moment. Bravo Ruben.
L'expérimentation est destinée aux jeunes du collège au lycée, mais des adultes se laissent aussi tenter, comme René Jassel, 78 ans, qui voudrait bien un robot pour l'aider au quotidien.
Les robots du Japon, moi ça me plairait. Ceux qui s'occupent des personnes âgées ou qui font le ménage, les cuisines.
La technique utilisée par ce robot s'appelle l'apprentissage machine et elle est déjà présente dans nos vies, explique Laetitia Ferreri qui encadre l'atelier.
Par exemple, lorsque des plateformes de vidéo à la demande vous proposent après plusieurs visionnages un type de vidéo ou de film ou d'émission, ça repose sur de l'accumulation de données et c'est question de machine learning.
Les activités proposées à la BNF se clôturent dimanche avant la tenue du sommet de l'IA la semaine prochaine.
Reportage d'Elisa Robuchon, 8h13 à Paris, RFI Matin continue. C'est à vous Julien Coquelrem.
Et merci beaucoup Gaëtan Plenet. La suite d'RFI Matin tout de suite, c'est la revue de presse. Le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche avec vous, Catherine Potet, et à la une, l'intelligence artificielle au quotidien.
C'est le Nouvel Obs qui nous offre cette perspective très instructive sur la question comment l'intelligence artificielle s'impose dans notre quotidien. Une plongée vertigineuse dans ce qui sera possible et ce qu'il est déjà. Le Nouvel Obs a rencontré des pionniers comme Stéphane qui converse 2 à 3 heures par jour avec son robot conversationnel qui est à la fois son meilleur ami et son psy. aussi. Il sait tout de ses sentiments, de ses amis et relations. Il lui a même fait lire son journal intime. Comme l'intelligence artificielle me connaît par cœur, dit-il, j'ai davantage confiance en elle qu'en moi-même. Je ne prends plus aucune décision sans la consulter. Morgane, elle, demande à ChatGPT de composer 5 dîners pour 4 personnes avec le contenu de son frigo. Il lui conseille de préparer une bonne soupe, mais les enfants vont faire la grimace, objecte Morgane. Pas démonté par la remarque, le bot lui suggère notamment de proposer une soupe mystère où les enfants doivent deviner les légumes ou les saveurs qui la composent.
Autant de témoignages qui ne vont pas sans poser certaines questions, Catherine.
Interrogée par le Nouvel Obs, la philosophe Anne Alombert remarque que plus nous utilisons ces systèmes, plus nous nous déshabituons à juger par nous-mêmes et plus nous avons besoin d'eux. Or, le recours à ces plateformes se fait toujours aux dépens de la transmission et du partage de savoir vivant entre individus, savoir soigner, savoir écouter, savoir cuisiner. Le Nouvel Obs a aussi interrogé l'écrivain Alain Damasio. Cet auteur de science-fiction estime qu'en 2025, on maîtrise encore plus ou moins la situation. Mais en 2030, demande-t-il, tout ce qui sortira des intelligences artificielles sera vérifié, solide, rationnellement indiscutable. Bien plus experte qu'un médecin formé en 7 ans dans la lecture des symptômes, qu'un mécanicien dans l'analyse d'une panne de moteur, qu'un journaliste dans la synthèse d'un dossier sur l'intelligence artificielle. Dans ces conditions, ajoute Alain Damasio, quelle liberté se donnera-t-on de ne pas les suivre, de ne pas par réflexe leur demander quoi faire, leur faire résoudre nos problèmes. L'écrivain se donne même le luxe de rêver un peu. L'intelligence artificielle, dit-il, devrait être dans l'idéal contrôlée par le ministère de l'Éducation. Elle devrait être un bien public destiné et enseigné à toutes et à tous. On n'en prend pas le chemin. Aucune entreprise ne fera ça, évidemment, reconnaît le Nouvel Obs.
Nous ouvrons à présent le point qui consacre un long dossier au président argentin Javier Milei.
Javier Milei, longuement interviewé par les envoyés spéciaux du Point, qui ne cachent pas leur admiration pour celui qui a baissé de 30% les dépenses publiques de l'Argentine et fait reculer de presque 37% le taux de pauvreté. L'une des premières questions posées au président est « Quels sont vos conseils pour sortir de la paralysie budgétaire ?» En France, Javier Milei conseille en substance de ne pas augmenter les impôts, mais de tailler dans les dépenses publiques, celles qui, dit-il, alimentent la corruption. Il évoque dans la foulée les politiciens voleurs et corrompus, les entrepreneurs qui vivent des faveurs de l'État, les syndicalistes qui travaillent contre les travailleurs, les journalistes corrompus et les employés des secteurs publics et privés qui gravitent autour du système et se nourrissent sur la bête. Le Point concède que les méthodes du lion argentin pour tailler dans les dépenses peuvent paraître rudes. Ainsi, quand le Congrès a tenté en septembre 2024 de voter une loi afin d'augmenter les pensions de retraite, Javier Milei a opposé son veto en traitant les élus de dégénérés fiscaux. Dans ce dossier du Point, il ne sera guère question du coût des réformes pour les plus pauvres. Tout juste l'hebdomadaire signale-t-il que le niveau de pauvreté est encore élevé en Argentine, comme en témoigne la foule de personnes indigentes qui fouillent dans les poubelles et dorment dans les rues de Buenos Aires.
Autre interview en longueur, celle que Bruno Retailleau a accordée au journal du dimanche.
Le JDD, dont le ministre de l'Intérieur n'aura pas à se plaindre à lire l'introduction élogieuse écrite par ses intervieweurs. À l'image de son illustre compatriote François-Athanase Charette de la Contrie qui combattit à la tête d'une armée de paysans les troupes de la Convention au lendemain de la Révolution française, Bruno Retailleau, nous dit-on, ne bat jamais en retraite. Ou encore, le ministre de l'Intérieur ne contourne jamais l'obstacle, il l'affronte par conviction, par devoir. Interrogé notamment sur les questions liées à l'immigration, Bruno Retailleau estime que le sujet migratoire, c'est la capacité à réduire les entrées et accélérer les sorties. Il assure aussi « ma volonté politique peut briser l'impossibilisme ».
Merci Catherine Potet. L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, le Premier ministre et son gouvernement ont franchi une première étape en adoptant le budget cette semaine après que deux motions de censure ont été repoussées à l'Assemblée. François Bayrou sauve donc sa tête et celle de son équipe. Bonjour Charlotte Turien-Thomacin.
Bonjour Julien.
L'horizon politique se dégage quelque peu pour François Bayrou, mais la route reste semée d'embûches dont certaines vont arriver rapidement.
Oui, prochaine étape pour le Premier ministre, la motion de censure spontanée que le PS déposera dans quelques jours. En cause, les propos de François Bayrou sur, je cite, le sentiment de submersion migratoire. Mais là encore, peu de chances pour que cette motion soit adoptée. Le RN ne devrait pas la voter. Et LFI, qui n'a pas apprécié le non-vote par les socialistes de leurs deux motions de censure cette semaine, ne la soutiendra sans doute pas non plus. Et après cela, à moyen terme, l'avenir est tout aussi incertain. La réforme des retraites, par exemple, actuellement en discussion au sein d'un conclave, comme il l'appelle, entre partenaires sociaux pendant 3 mois, sera aussi un tournant pour le mandat de François Bayrou.
Mais dans l'entourage du Premier ministre, on est confiant ?
Oui, ses proches estiment qu'il peut désormais tenir jusqu'à l'automne en y allant, je cite, étape par étape, disent-ils, et ajoutent qu'ils sont confiants. Il faut dire que pour le moment, la stratégie du Premier ministre fonctionne. Il a réussi à franchir plusieurs haies sans être censuré, celle de la déclaration de politique générale, pour laquelle il n'y a pas eu de motion de censure adoptée, et donc maintenant le budget et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors ça ne veut pas dire non plus que tout est rose, loin de là. On marche sur des œufs, me confiait un député du camp du Premier ministre, mais on avance.
Et il faut dire que même dans le bloc central, les alliés ne font pas de cadeau au Premier ministre.
Oui, chez les Républicains, d'abord, le Premier ministre reste perçu comme un allié défaillant, voire un traître, alimenté par Nicolas Sarkozy. Cette rancœur ne remet pas en cause la participation des LR au bloc central. Mais le patron du groupe LR, Laurent Wauquiez, entretient des relations compliquées avec le Premier ministre. Dans une interview donnée récemment au JDD, le député expliquait que la droite ne ferait pas de cadeau au gouvernement, notamment sur les sujets qui fâchent, comme la proportionnelle, dont LR ne veut pas entendre parler, et cheval de bataille de François Bayrou, bien sûr. L'immigration est également un sujet sensible qui pourrait enflammer le bloc central dans les prochains mois. Alors au-delà de la gauche et du RN, pour le Premier ministre, la méfiance reste de mise, même avec son propre camp.
Charlotte Turien-Thomacin du service politique de RFI, merci beaucoup. Et dans Chemin d'écriture, un premier roman prometteur ce matin. Le premier livre de la Tunisienne Monia Aljalis, née à Paris, la capitale française où déambule son personnage, la jeune Leïla, en quête du sens de sa vie à bâtir. Le roman s'appelle L'Extase et Monia Aljalis nous en parle avec Tirtan Karchanda.
Il s'agit d'une journée d'errance spirituelle. Vu à travers les yeux d'une femme ne trouve pas ce qui soit susceptible de la satisfaire et qui est en quête de ce qui va la satisfaire. Ce roman est un mélange entre une recherche de désir et une recherche d'élévation spirituelle, d'où l'extase.
La quête de Leïla est aussi une quête identitaire. Elle est tiraillée entre ici et là-bas. Mais comme le dit la narratrice, elle ne peut être ni d'ici ni de là-bas. Expliquez-nous.
Dans le cas de Leïla, c'est une quête de sens qui est effectivement liée à sa quête d'identité. Mais comme ce que lui offre la société moderne, occidentale, ne lui convient pas, mais aussi ce que la tradition de sa famille, de ses parents, ne lui convient pas non plus. Du coup, elle oscille entre les deux. C'est pour ça qu'elle n'est ni d'ici ni de là-bas. Elle refuse, Leïla, comme beaucoup de personnes dans son cas, à faire un choix et à se laisser emporter par l'une ou l'autre des deux cultures. Je n'avais pas pour but forcément de présenter un tiraillement lié à deux cultures, que ce soit des cultures donc orientales ou occidentales, mais je voulais présenter quelque chose d'un petit peu plus large. Je pense que ce tiraillement de Leïla touche quasiment toutes les personnes qui ont dû à un moment ne serait-ce que changer de lieu de vie. C'est une expérience universelle et j'ai voulu le présenter à travers un personnage pour lequel ce déchirement est extrême.
Ce déchirement est aussi incarné par le personnage dans le poème du persan Mansour al-Hallaz, qui lui est tiraillé entre désir et quête spirituelle et que vous avez mis en exergue.
Disons que j'ai choisi cet exergue et en particulier ce texte-là parce que Hallaj, qui est un mystique en recherche de Dieu, dans un rapport presque amoureux, il le voit dans tout l'espace qui l'entoure, d'où cette affaire de jardin de signification. Pour moi, le personnage de Leïla est dans cette recherche-là, même s'il n'arrive pas complètement à s'ouvrir à ce que lui apporte l'espace autour d'elle, la ville, ses amis, ce que lui propose la vie moderne, ce que lui propose aussi ses parents. En tout cas, à la fin, elle y tend, mais elle n'y arrive pas complètement.
En attendant, Leïla arpente frénétiquement les rues de Paris, multipliant amours et peines. Que représente ici Paris, où se déroule l'action du roman ?
Paris, c'est presque un personnage de ce roman. Paris est là pour faire comme un miroir à ce personnage de Leïla, c'est-à-dire qu'il lui renvoie à la fois cette fange, cette décadence dans laquelle elle tombe, et en même temps cette recherche d'une renaissance spirituelle ou mystique. J'ai voulu faire de Paris un lieu de perdition, avec des espaces interlopes, avec des figures un petit peu marginalisées. Et pour moi, cet espace de Paris a quelque chose de mystique.
Leïla, c'est un peu vous, non, Monia Alzalis?
En vérité, pas tout à fait. Je me suis prise comme modèle sociologique. C'est-à-dire que j'ai pris le modèle familial qui est le mien, le travail donc de mes parents, le modèle des frères, les amis aussi. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que la vie qu'elle mène n'est pas tout à fait la vie que je mène moi-même. C'est, si vous voulez, peut-être une version extrêmement exagérée de ce qu'aurait pu être ma vie si je m'étais laissée porter par un certain nombre d'excès, ce qui n'est pas le cas.
La dernière question, pourquoi écrivez-vous ?
J'écris parce que j'ai besoin de soulever le voile et que c'est à travers le langage que ça se passe. C'est une expérience très individuelle, même si je l'offre aux autres, et j'espère qu'ils y trouveront quelque chose d'intéressant.
Monia Aljalis et son premier roman L'Extase dans Chemin d'écriture, entretien signé Tirtan Karchanda, à retrouver sur RFI.fr. Et dans notre reportage culture ce matin, un spectacle à Paris qui fait renaître Jeanne d'Arc sur les planches près de 6 siècles après sa mort sur le bûcher. La comédienne et chanteuse française Judith Chemla incarne le rôle-titre dans Le procès de Jeanne au Bouffes du Nord à Paris, un spectacle théâtral et musical inspiré par des documents historiques. Carmen Lunzmann.
Seule au milieu de la scène, pâle et les cheveux en bataille, Jeanne d'Arc chante sa foi face aux hommes d'église qui cherchent à la condamner pour hérésie.
La noble cité d'Orléans.
Cette analphabète, tout juste 19 ans, déjoue avec malice, détermination et une perspicacité inouïe les pièges que lui tend le tribunal d'inquisition. Que des hommes, en costumes somptueux, représentés sur un écran octogonal, évoquant à la fois toile d'araignée et tour de prison. Octogonal est aussi le plancher sur lequel se tient Judith Chemla, délicate et bouleversante, entre force et fragilité, habitée par son personnage.
C'est quand même une enfant, tout ce qu'il y a de plus vulnérable, qui change le cours de l'histoire, qui redonne espoir et qui transforme le monde, parce que elle a accepté de se lever pour la justice, pour mettre fin au massacre, pour écouter cette voix qui lui disait de faire cesser cette guerre de 100 ans, et en allant au combat, et en revendiquant de ne pas tuer. Enfin, ce sont ces mots, presque 600 ans après, notés par ses ennemis, par les greffiers de l'époque. Et c'est une très jeune femme qui tient tête, qui tient sa vérité face à des gens qui l'ont déjà jugée coupable.
Jugée coupable non pas d'avoir chassé les Anglais hors de France, mais de porter des habits d'homme dans une prison où la jeune femme est malmenée par ses geôliers. Cette Jeanne d'Arc courageuse et incandescente, portée par la voix de Judith Chemla, tantôt murmurée, tantôt enragée, est sublimée par la musique du compositeur Camille Rocailleux.
Il y a d'un côté la dimension très brutale des juges, des accusateurs, ce rouleau compresseur très oppressant pour Jeanne d'Arc. Donc là j'avais besoin d'une musique assez sombre et assez brutale aussi, donc l'utilisation des percussions, des sonorités comme ça, des frictions dans les sons des cuivres graves qui saturent. Et puis d'un autre côté il y a ces moments de recueillement où elle est seule, on la retrouve dans un moment d'intimité et là ce sont ses voix, c'est le chant lumineux qui s'exprime à ce moment-là.
Six musiciens polyvalents œuvrent dans la pénombre. Ils traversent des univers inspirés de Monteverdi à David Bowie pour rendre ce procès de Jeanne, cet interrogatoire qui a duré des mois, plus proche de nous, intemporel et poétique. Une poésie qui émane des mots mêmes de son héroïne, première prisonnière politique et féministe avant l'heure, qui défend ses convictions jusqu'au bout avec grâce et dignité et nous donne une belle leçon d'humanité.
Le procès de Jeanne, spectacle conçu et mis en scène par Judith Chemla au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris et en tournée à travers toute la France jusqu'au 27 mai. Bientôt 7h30 en temps universel et le journal dans une minute.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
À l'occasion du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, je reçois Antoine Baillet, directeur éditorial de l'INA, qui a supervisé la publication d'une cartographie des enjeux et usages de l'IA pour le journalisme. Et puis un spécialiste, Olivier Martinez, nous expliquera concrètement comment les médias peuvent s'emparer de l'IA en 2025. L'atelier des médias, c'est tout à l'heure à 11h10 TU sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Young Franco.
Shawty got the spread, don't miss. I'm all about my bread and my chips. The music in my head never quits.
Kutu.
Addi samat matare. Adare sani kwa. Fikri nizo badias. Deji me leta taman. Kifu kifu karto. Chacharune asama.
RFI Musique.